Afrique. Bonsoir à toutes et à tous. Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 10 décembre 2024, en direct de Washington, Rosine Monezel. Pour commencer, les titres. Les avions de chasse français basés au Tchad depuis des décennies ont commencé à décoller mardi de N'Djamena. Au Soudan, plus de 100 personnes ont été tuées lors d'une attaque de l'armée sur un marché au Darfour Nord. En Syrie, les rebelles ont nommé un de leurs chefs comme premier ministre de transition. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a comparu devant la justice pour corruption. Et dans notre partie magazine, ici aux États-Unis, le président américain Joe Biden a présidé lundi son dernier sommet des nations tribales à la Maison-Blanche. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Les avions de chasse français basés au Tchad depuis des décennies ont commencé à décoller mardi de N'Djamena, enclenchant le mouvement de retrait de l'armée française après la résiliation de l'accord de défense par le Tchad. Les détails avec Didi Dico.
Deux Mirage 2000, accompagnés d'un avion ravitailleur, ont décollé peu avant 12h30 GMT, selon une source française proche du dossier. Un troisième appareil devait encore décoller, a-t-elle précisé. La présence de ce détachement ne se justifie plus après rupture de l'accord de défense dénoncé le 28 novembre par les autorités tchadiennes, selon une autre source française. La France procède à la fermeture du détachement des avions de chasse de la base aérienne de Kosseï à N'Djamena. L'armée française prend la décision de retirer ses avions, a-t-elle ajouté. Le Tchad était un maillon clé de la présence militaire française en Afrique, constituant le dernier point d'ancrage de Paris au Sahel, après les retraits forcés de ses troupes au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Le départ des avions Mirage est la conséquence de l'annonce par le Tchad, le jour anniversaire de son indépendance, le 28 novembre, de mettre fin aux accords de sécurité et de défense qui liaient les deux pays. Paris déployait près de 1000 militaires au Tchad sur plusieurs empreintes militaires, un dispositif qui était amené à se réduire dans le cadre d'une reconfiguration. Paris déployait près de 1000 militaires au Tchad sur plusieurs empreintes militaires, un dispositif qui était amené à se réduire dans le cadre d'une reconfiguration de la présence militaire française au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Tchad.
Le Conseil de l'Union européenne a prolongé jusqu'au 12 décembre 2025 les sanctions contre la République démocratique du Congo visant 23 personnes et une entité impliquées dans des violations des droits de l'homme, des ingérences électorales et le conflit en cours. Ces sanctions incluent un gel des avoirs et une interdiction de voyager. L'Union européenne a également indiqué qu'elle continuerait de suivre la situation en RDC et pourrait modifier la liste des sanctions en fonction des évolutions sur le terrain. La police kényane a tiré mardi des gaz lacrymogènes et a arrêté des manifestants lors d'une marche pacifique contre les féminicides dans la capitale Nairobi. Selon des journalistes de l'AFP sur place et des ONG, plusieurs organisations, plusieurs organismes de défense des droits de l'homme ont appelé à marcher pour réclamer aux autorités des mesures contre les féminicides, alors que la Commission nationale kényane des droits de l'homme a déclaré en novembre avoir recensé 97 assassinats de femmes au cours des trois mois précédents. Plus de 100 personnes ont été tuées hier lundi dans un bombardement de l'armée sur un marché bondé au Darfour Nord, dans l'ouest du Soudan, en partie contrôlé par les paramilitaires. C'est ce qu'a affirmé ce mardi un groupe d'avocats soudanais. Le point avec Eric Manilakis.
Le bombardement a eu lieu le jour de marché hebdomadaire de la ville, où des habitants de divers villages voisins s'étaient rassemblés pour faire leurs courses, selon l'organisation Emergency Lawyers. Cette frappe meurtrière a eu lieu à Kababia, à environ 180 km à l'ouest d'Infacher, la capitale du Darfour Nord, assiégée depuis mai par les paramilitaires des forces de soutien rapide FSR, a précisé l'organisation. L'armée soudanaise accusée a nié de son côté avoir mené cette attaque, dénonçant dans un communiqué des mensonges imputés aux partis politiques qui soutiennent les FSR, et ajoutant qu'elle continuerait à exercer son droit légitime à défendre le pays. Emergency Lawyers a également déclaré qu'Anyala, capitale du Darfour Sud, est deuxième ville la plus peuplée du Soudan des frappes aériennes aveugles avec barils explosifs ont visé trois quartiers sans faire état de victimes. Par ailleurs, Human Rights Watch a accusé les FSR et des milices alliées de crimes de guerre dans le Kordofan Sud, évoquant des meurtres, des viols et des pillages ciblant des civils de l'ethnie Nouba. Le Darfour, qui abrite environ un quart de la population du Soudan, est le théâtre de violences sans précédent, alimentées par une guerre interne qui ne semble pas près de s'achever. Un conflit qui a fait des dizaines de milliers de morts et plus de 11 millions de déplacés et nourrit l'une des pires crises humanitaires récentes, selon l'ONU.
Le candidat du parti d'opposition au Ghana, John Mahama, a remporté la présidentielle avec 56% des voix face au candidat du parti au pouvoir et vice-président du pays, Mahamudu Bawumia, 41%, a annoncé lundi la commission électorale. Mahamudu Bawumia avait rapidement reconnu dimanche sa défaite au scrutin de la veille. La victoire du parti National Democratic Congress signe son retour au pouvoir après 8 ans de gouvernance du New Patriotic Party. La Cour martiale à Kampala a ajourné mardi au 7 janvier le procès de l'opposant Kizza Besigye, enlevé le mois dernier au Kenya, son avocate principale n'ayant pas été autorisée à exercer dans le pays. Il est accusé d'avoir été en possession de 2 pistolets et d'avoir sollicité un soutien logistique en Ouganda, en Grèce et dans d'autres pays dans le but de compromettre la sécurité nationale du pays. L'ancien colonel de 68 ans a nié les accusations et estimé qu'il devait être jugé par un tribunal civil. Il comparait aux côtés d'une autre figure de l'opposition, Haji Lutale Kamulegeya, également arrêté à Nairobi.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Syrie, Mohamed al-Bashir a été nommé chef d'un gouvernement de transition. Il assurera ses fonctions jusqu'au 1er mars 2025, a annoncé un communiqué officiel des nouveaux maîtres de Damas. Le point avec Jean-Roger Billon.
Mohamed al-Bashir dirigeait jusqu'à présent le gouvernement de salut du bastion rebelle d'Idleb dans le nord-ouest de la Syrie. À ce titre, il contrôlait le groupe djihadiste Hayat Tahrir al-Sham qui a mené la coalition de rebelles ayant provoqué la chute du régime de Bachar al-Assad. Le communiqué du HTS rapporté par la télévision a présenté M. Bashir comme le nouveau Premier ministre. La puissante formation islamiste qui dirige la coalition de rebelles, ayant pris le pouvoir, a précisé qu'il dirigera un gouvernement chargé d'expédier les affaires courantes. Ce gouvernement assumera ses fonctions jusqu'au début du lancement du processus constitutionnel, a ajouté Hayat Tahrir al-Sham, indiquant qu'un nouveau gouvernement sera alors formé. Emporté dimanche après 13 ans de guerre par une offensive spectaculaire de groupes rebelles dirigés par HTS, le président Bachar al-Assad a fui le pays.
Le président français Emmanuel Macron a invité un mardi les chefs des partis politiques hors extrême droite et gauche radicale pour essayer de défricher la route lui permettant de nommer un Premier ministre et surtout d'éviter une censure. Issue de la droite, l'ancien commissaire européen Michel Barnier, en fonction depuis seulement 3 mois, a été contraint jeudi de démissionner après un vote de censure historique à l'Assemblée nationale. L'entourage d'Emmanuel Macron dit espérer avancer sur un accord concernant une méthode pour la nomination d'un nouveau chef de gouvernement. Reprise du procès pour corruption de Benjamin Netanyahou en Israël. Le Premier ministre israélien est arrivé ce mardi dans la salle du tribunal de Tel Aviv pour répondre aux accusations et témoignages. Alexandrine Hollognon.
Netanyahou est poursuivi pour corruption, fraude et abus de confiance. Il est le premier chef de gouvernement israélien en exercice à être jugé au pénal. Des députés de la coalition gouvernementale de droite sont venus assister à l'audience qui se déroule dans une salle souterraine pour des raisons de sécurité. Des opposants et des partis ministres se sont rassemblés devant le bâtiment du tribunal, scandant slogans pour ou contre sa condamnation. Cette audience marque la reprise du procès rompu par la guerre dans la bande de Gaza. Netanyahou avait déposé plusieurs demandes de report de la procédure en invoquant les hostilités déclenchées par l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 en Israël, qui a déclenché la guerre toujours en cours. « Je parlerai au tribunal. Je parlerai devant le tribunal. Je ne fuis pas, a assuré Netanyahou lors d'une conférence de presse lundi soir. Sa précédente apparition devant un tribunal remonte à juin 2023, avant le début de la guerre dans la bande de Gaza.
Les ministres de l'Intérieur du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de la France, des Pays-Bas et de la Belgique se réunissent ce mardi à Londres pour renforcer leur coopération contre les réseaux criminels liés à l'immigration illégale en Europe. Le but est de démanteler les réseaux de passeurs, de renforcer les poursuites contre les responsables et de mettre en place un plan d'action renforcé pour 2025 avec l'aide de la Commission européenne et des agences Frontex et Europol. Voilà pour le journal. Vous écoutez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Jean-Roger Billon.
John Dramani Mahama revient à la tête du Ghana en promettant de redresser l'économie. Le président élu du Ghana a déclaré qu'il chercherait à renégocier les termes d'un plan de sauvetage du FMI de 3 milliards de dollars obtenu l'année dernière. Il a également promis d'assouplir la réglementation des affaires, d'introduire un nouveau système de travail en 3 équipes 24 heures sur 24, d'adopter des réformes fiscales et d'investir 10 milliards de dollars dans la modernisation des infrastructures. Le Maroc a accueilli un nombre record de 15,9 millions de touristes durant les 11 premiers mois de l'année 2024, dépassant le total de l'année précédente, a déclaré lundi le ministère du Tourisme. Les arrivées de visiteurs jusqu'en novembre ont augmenté de 20% par rapport à la même période de l'année dernière et de 10% par rapport à l'ensemble de l'année 2023, selon un communiqué du ministère marocain du Tourisme. Les États-Unis ont imposé lundi de nouvelles sanctions à un réseau mondial de contrebande d'or et de blanchiment d'argent basé au Zimbabwe, a indiqué le département du Trésor dans un communiqué. Les sanctions visent 28 personnes et entreprises liées au réseau dirigé par un certain Kamlesh Patni, a précisé le département.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Rosine Monezero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Plus de 100 personnes ont péri dans un bombardement au Darfour Nord où les violences persistent entre l'armée et les paramilitaires des FSR et de leurs milices alliées. Par ailleurs, Human Rights Watch dénonce des crimes de guerre au Kordofan Sud. Un conflit marqué par des milliers de morts et une crise humanitaire alarmante. Pour en savoir davantage, Eric Manilakiza a joint à Rome Laetitia Bader, chercheuse de Human Rights Watch, récemment rentrée de mission dans la région.
Alors, on était à la frontière entre le Soudan et le Sud-Soudan, alors du côté sud-soudanais, où, alors c'est une frontière où depuis le début du conflit, en fait, 700 000 personnes ont traversé cette frontière. Et ce qu'on a remarqué, on y était la semaine dernière, c'est qu'il y a eu une augmentation, en fait, des civils qui arrivaient. Il y avait des milliers de civils qui arrivaient chaque jour, qui est vraiment une escalation des derniers mois. Et c'est des civils, en fait, qui fuient des nouveaux combats qui ont lieu dans deux états au Soudan en particulier, Sennar et aussi les états du White Nile et Blue Nile, qui étaient, dans le cas des derniers, plutôt épargnés le conflit jusqu'à maintenant, en fait. Donc, on a recueilli de témoignages de civils qui fuyaient pour des raisons diverses, en fait. Il y avait ceux qui fuyaient les bombardements des forces de de l'armée soudanaise. Alors, on a recueilli des témoignages aussi de blessés qui sont actuellement dans l'hôpital du côté du Sud-Soudan, des blessés très gravement blessés à cause des bombardements. On a aussi parlé à des civils qui, en fait, fuyaient avant que les forces de soutien rapide arrivent dans leur village, en fait. C'était juste la peur que les forces de soutien rapide arrivent qu'ils ont fui. On a parlé à des membres d'un village où 350 personnes de ce petit village sont tous partis en même temps parce qu'ils avaient tellement peur à entendre des informations que les FSR étaient en train de s'approcher. Ce qui est vraiment flagrant dans ces témoignages est non seulement le fait que vraiment les gens ont été déplacés à maintes reprises, que les gens se retrouvent vraiment sans possession. Alors, c'est parce qu'ils ont dû se déplacer plusieurs fois. C'est dû au pillage massif, surtout par les FSR, dans tous les villes, les villages où ils ont occupé. Mais c'est aussi ce sentiment, actuellement, il n'y a vraiment nulle part au Soudan où les civils sont protégés et peuvent avoir une sécurité. Donc, voilà pourquoi on voit vraiment même des communautés qui n'avaient pas été déplacées jusqu'à maintenant qui arrivent actuellement au Sud-Soudan. C'est une catastrophe.
Selon vous, le conflit au Soudan est-il négligé ou oublié par la communauté internationale? Et si oui, pourquoi?
Absolument, on le voit bien que dans les médias, même si au début du conflit et peut-être au début de cette année, on voyait plus de reportages sur ce qui se passait, sur les dynamiques au Darfour, mais c'est vraiment un conflit qui est largement négligé. Le mois dernier, on avait vu une réunion au Conseil de sécurité où la Russie, à la dernière minute, avait en fait posé son veto sur une résolution qui avait été largement obtenu le consensus, en fait, qui n'était pas une résolution particulièrement forte, mais qui disait une fois de plus aux deux parties belligérantes qu'il fallait absolument arrêter de se battre, que les pays qui soutiennent les différentes parties belligérantes devaient arrêter de faire parvenir des armes aux parties et qui soulignaient quand même l'importance de la protection des civils. Mais ce qu'on n'a pas vu encore vraiment, c'est un effort au niveau politique de haut niveau qui est absolument nécessaire pour mettre fin aux attaques sur les civils. Et nous pensons encore, et je pense que notre mission à la frontière de la semaine dernière nous a une fois de plus souligné l'importance qu'il y ait le déploiement d'une force qui protégerait les civils au Soudan aussi vite possible.
Laetitia Bader, chercheuse de Human Rights Watch, joint à Rome en Italie.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal.
Les Seychelles, un petit pays insulaire situé sur la côte est de l'Afrique, font partie des États participant à une audience sur le changement climatique qui se tient jusqu'au 13 décembre à la Cour internationale de justice de l'AE. Aux Pays-Bas, Kate Bartlett s'est rendue sur l'île principale, Mahé, pour voir comment les habitants font face à la montée du niveau de la mer et au réchauffement de l'océan. Le récit est de Yakuba Ouedraogo.
Il y a peut-être beaucoup de poissons aujourd'hui sur ce marché de Victoria, la capitale des Seychelles, Mais Cliff Moral, un pêcheur chevronné, dit que ce n'est pas toujours le cas.
Parfois nous allons, nous n'avons pas de poissons, pas assez de poissons à cause du changement climatique. La température est très élevée et les poissons doivent aller loin dans les profondeurs de la mer.
Charlize Fideria dirige ce centre de plongée sur Mahé, l'île principale de cet archipel située au large de la côte est de l'Afrique. Elle a vu comment le réchauffement climatique a affecté les espèces dans cette partie de l'océan Indien.
Littéralement, et j'ai presque pleuré sur l'eau parce que je me disais, où sont les requins? Où sont les raies? Où est toute chose? Je ne vois rien.
Elle affirme également que les changements du corail ont été radicaux au cours de sa vie.
Quand j'ai commencé à plonger, il y avait le blanchiment du corail. Mais c'est bien pire maintenant. Bien que nous ayons constaté que les coraux poussent plus vite qu'on ne le pense, ce n'est pas encore assez rapide pour s'adapter au changement de température de la mer.
Flavien Joubert est le ministre séchellois de l'Agriculture, du Changement climatique et de l'Environnement.
Nous avons connu plusieurs épisodes de l'échauffement. Chaque fois que vous avez un échauffement, votre récif s'effondre, le corail vivant meurt, puis il revient. Mais il ne revient pas au même niveau.
Autre phénomène, des précipitations plus importantes que d'habitude qui provoquent des inondations et des glissements de terrain. L'année dernière, des pluies torrentielles ont détruit cette maison située à l'extérieur de Victoria. Plusieurs personnes sont mortes. Les fortes pluies menacent également la viabilité des œufs des tortues géantes d'Aldabra, originaires des Seychelles. Ces tortues terrestres sont également confrontées aux menaces du réchauffement climatique, de la perte d'habitat et de l'élévation du niveau de la mer, l'un des plus grands défis à relever. Le niveau de la mer autour des Seychelles augmente d'environ 3 mm par an, selon le ministre de l'Environnement, Flavien Joubert. Le président Wavell Ramkalawan affirme que les gens finiront par être déplacés.
Nous sommes confrontés au poids de la crise climatique. Certaines de nos îles coralliennes pourraient disparaître et le long de la côte des îles granitiques, où vivent la majorité de la population, nous devrons nous déplacer vers des terres plus élevées.
Monsieur Joubert estime que les grands pays sont les premiers responsables des événements liés au climat et qu'ils devraient aider les petits pays à en gérer les effets.
Il y a ceux qui ont plus de ressources, qui ont émis beaucoup plus que ceux qui ont bénéficié de ces émissions, qui devraient en fait intervenir et intensifier leur jeu et vraiment mettre plus de ressources sur la table pour aider les pays comme le nôtre à s'adapter et à atténuer les émissions.
Entre-temps, le gouvernement a réhabilité les récifs coralliens et encouragé l'utilisation d'énergies renouvelables en espérant que ces mesures contribueront à préserver les moyens de subsistance des personnes et des espèces qui habitent les 115 îles des Seychelles.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
12 ans après la disparition d'Austin Tice en Syrie, la famille du journaliste a reçu la preuve qu'il est toujours en vie. La chute du régime du président Bachar al-Assad relance les efforts pour le ramener aux États-Unis. Le reportage de Liam Scott et de Christina Smith, relaté par Jean-Roger Billon.
La prise de Damas par les rebelles dimanche a mis un terme au règne de Bachar al-Assad après 24 ans de pouvoir. Les Syriens sont prudemment optimistes, mais les analystes mettent en garde contre l'incertitude. Parmi ceux qui suivent de près le déroulement des événements, on trouve la famille Tice. Ils étaient à Washington la semaine dernière pour faire le point sur le cas de leur fils Austin. L'ancien Marine et étudiant en droit devenu journaliste indépendant a été capturé en Syrie en 2012. Au-delà d'une vidéo prise après sa capture, on n'a guère entendu parler de lui depuis. Mais vendredi, la famille avait de nouvelles informations à partager. Mark Tice est le père d'Austin.
Nous avons récemment reçu de nouvelles fraîches d'une source bien informée selon laquelle Austin est bel et bien vivant.
Les nouvelles informations situent Tice dans une prison de Damas. Debra Tice est la mère d'Austin.
Austin est bien vivant et bien traité et je peux vous dire qu'il attend de rentrer à la maison. Il est tellement prêt. Et il a su, dès le premier jour de sa détention, qu'il allait retrouver la liberté.
Après avoir parlé aux médias vendredi, 17 membres de la famille et quelques accompagnateurs se sont rendus à la Maison Blanche par des températures glaciales pour parler aux responsables. Et dimanche, le président Joe Biden a réitéré son engagement à rapatrier le journaliste.
Nous pensons qu'il est vivant, nous pensons pouvoir le ramener, mais nous n'en avons pas la preuve directe et Assad devrait être tenu pour responsable.
Le soulèvement contre Assad et les troubles qui en ont découlé ont incité Austin Tice a réalisé un reportage dans cette région en 2012. Megan Mellon est la sœur d'Austin.
Il fallait qu'il aille raconter ce qui se passait là-bas parce qu'il se disait que personne d'autre n'était là. Personne ne raconte ce qui arrive spécifiquement aux femmes et aux enfants.
La communauté internationale s'efforce également d'obtenir la libération de Tice dans le contexte des changements survenus en Syrie. Robert Wood est l'ambassadeur adjoint des États-Unis auprès des Nations Unies.
Austin Tice est une priorité absolue pour nous en ce moment. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour essayer de le localiser et de le libérer.
Pour la famille Tice, la chute de Bachar al-Assad apporte l'espoir que leurs efforts pour ramener Austin à la maison n'ont pas été vains.
Le président américain Joe Biden a présidé lundi son dernier sommet des nations tribales à la Maison-Blanche en plongeant dans le passé sombre du pays et en établissant un monument national pour commémorer les souffrances de milliers d'enfants amérindiens et de leurs familles dans les pensionnats fédéraux au 19e et 20e siècle. Anita Powell, correspondante de la VOA à la Maison-Blanche, était en direct de Washington. Son reportage est relaté par Lionel Gaïma.
Les millions d'Américains qui appartiennent à l'une ou plusieurs des 574 tribus reconnues par le gouvernement fédéral savent que leur passé est marqué par la douleur. Au début de l'année, le président Joe Biden a qualifié de tâche dans l'histoire de la nation le traitement de milliers d'enfants amérindiens dans les pensionnats du gouvernement. Lundi, il a signé une proclamation pour établir un monument sur le site de l'école industrielle indienne de Carlisle en Pennsylvanie, dont la mission du fondateur était de tuer l'Indien, sauver l'homme.
Le gouvernement fédéral a mandaté le retrait d'enfants de leur famille, de leur tribu, lançant ce que l'on appelle l'ère des pensionnats indiens fédéraux sur une période de 150 ans. 150 ans du début des années 1800 à 1970, l'un des chapitres les plus horribles de l'histoire américaine. Nous devrions avoir honte.
Aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur des États-Unis est au service de 1,9 million d'Amérindiens et d'Autochtones de l'Alaska, dont beaucoup vivent sur des terres souveraines dans l'ouest des États-Unis. Cela ne représente qu'un petit nombre de la population qui, selon les historiens, prospérait sur le continent avant la colonisation européenne. Les Amérindiens n'ont obtenu la citoyenneté américaine qu'en 1924, avec l'adoption de la loi sur la citoyenneté indienne. Elva Martinez est une militante de la tribu Walker River Paiute.
C'est au cours de notre génération que les Autochtones ont enfin obtenu le droit de vote. C'est donc encore un sujet important aujourd'hui. Nous disons toujours aux gens que ce sont nos parents et les gens de cette génération qui se sont battus pour le droit de vote.
Les résidents autochtones d'aujourd'hui ont en tant que groupe le taux de pauvreté le plus élevé du pays. Et leurs jeunes sont à la traîne des autres groupes démographiques sur le plan éducatif, avec des taux d'abandon scolaire bien élevés que ceux de leurs pères blancs, selon une étude réalisée par un groupe de recherche bipartisan. Lundi, Joe Biden a détaillé les efforts déployés par son administration pour améliorer les moyens de subsistance des populations autochtones du pays et pour donner plus de poids aux communautés. Et il a insisté sur le fait qu'honorer le passé est la voie à suivre.
En faisant de l'école indienne de Carlisle un monument national, nous montrons clairement ce que font les grandes nations. Nous n'effaçons pas l'histoire, nous la reconnaissons. Nous en tirons les leçons et nous nous souvenons pour ne plus jamais la répéter.
Le ministre de l'Intérieur, Deb Haaland, la première Amérindienne à occuper un poste de ministre, a salué le travail de M. Biden.
Le président Biden a été le meilleur président pour les Indiens de toute ma vie. C'est un président et une administration qui voient vraiment les peuples indigènes et qui ont travaillé sans relâche pour résoudre les problèmes des zones indiennes qui ont longtemps été sous-financées ou carrément ignorées.
Le président élu Donald Trump a nommé le gouverneur du Dakota Nord, Doug Burgum, à la tête du ministère de l'Intérieur, qui, outre le bureau des affaires indiennes, gère également les vastes ressources foncières.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci également à la rédaction et à toute l'équipe de production. Au micro, vous étiez avec Rosine Mounezero, à la mise en onde, Joselle Morissin. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Passez une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.